Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Julien de Capture Mag. Je vous prends un tout petit peu de votre temps pour vous parler d'un projet qui nous tient particulièrement à cœur, à toute l'équipe. Il s'agit d'un MOOC, on va dire que c'est un bouquin, dans lequel nous avons compilé énormément d'interviews inédites avec un casting vraiment absolument étonnant. Oui, je suis très fier de ce projet. Et des articles, des analyses, on parle de jeux vidéo, on parle de séries télé, on parle évidemment de cinéma. Vous allez retrouver toute l'équipe de Capture, évidemment, dedans. Donc c'est un projet qu'on finance grâce à KissKissBankBank, donc un financement participatif. On a atteint les 100% à notre grand et bel étonnement en 2 jours seulement. Donc ça, on est hyper contents. Merci à tous pour votre soutien. Et tous ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, bah venez ! Vous allez voir, on est sympa, on a un truc super à vous proposer et on va essayer de porter ce projet encore plus loin, encore plus haut. Voilà. Donc retrouvez-nous sur KissKissBankBank et puis à très bientôt.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Story the Podcast, je suis Stéphane Moïsakis et je suis joie aujourd'hui parce que je suis enfin un an après avec mon ami Julien Dupuis. Salut Julien.
Un an après ?
Ça fait un an que t'as pas enregistré un stéroïde.
Ah la vache.
Il faut le dire.
C'était quoi le dernier ?
Il y avait Speed.
Ah oui, c'était cool.
L'enquête.
Ça.
L'enquête, comme il dit Alain, parce que Alain Mercier est avec nous, il a un micro, n'est-ce pas ?
Il a une casquette surtout.
Il a une casquette aussi.
Les gens ne
peuvent pas voir parce qu'il n'y a pas de caméra. On a 3 caméras mais on n'a aucune sur Alain Mercier.
Devinez la casquette d'Alain Mercier, on pourrait faire un concours comme ça. Et les gens nous envoient des dessins d'Alain Mercier avec une casquette.
Et on vous offre une ristourne sur le MOOC.
Ah ouais, ce serait pas mal, ça serait intéressant. Ça.
Moins de 2 euros, si vous devinez la casquette d'Alain. Donc Julien, ça faisait donc, l'enquête, ça faisait un an.
D'accord.
À peu près, même un peu plus maintenant. Mm-hmm. Donc on s'est dit qu'on va choisir un film que t'aimes. Pour ton grand retour, pour que tu restes.
C'est Stéphane qui a insisté. Hein.
Voilà. Et donc en fait, ce film, c'est Le Roi Scorpion.
Ouais.
Alors dans la langue d'Arnaud Bordas, de Chuck Russell, voilà. Bon, nous on l'appelle comment, Chuck Russell,
ouais.
Hein, tranquillement quoi. Mm-hmm. Et pourquoi je dis que t'as aimé, parce qu'en fait si tu veux, à ma grande surprise, un copain qui m'a suggéré de faire ce film que lui aime beaucoup, hein, par ailleurs, tu vois, et il m'a dit mais si Julien Dupuis avait aimé. Et j'ai fait pas du tout, c'est pas possible. Donc je suis allé vérifier, ok, dans cette Bible de l'époque, si tu veux, donc, puisque c'était à l'époque, on est travaillé dans ce magazine dont on ne montre absolument pas le logo. Voilà. Et effectivement, c'était juste une note, hein. On aurait pu s'arrêter là, tu vois. Tu avais mis 4, 4, ça équivaut à bon, tu vois. Et avec, une formule assez finalement lapidaire, sur laquelle tu disais c'est rigolo. Alors, pour les gens qui nous écoutent en podcast,
point.
C'est rigolo, point. Il n'y a même pas de point d'exclamation, rien, tu vois. Pour les gens qui nous écoutent en podcast, ils peuvent pas le voir, mais en vidéo, je vais le montrer, n'est-ce pas, Alain Mercier ? Donc tu me dis, hein, quand si c'est bien à l'écran.
Mec.
Voilà, hop, point.
C'est où ?
Voilà, bah, vous cherchez, il y a un 4, hein, c'est rigolo, le Roi Scorpion, voilà. Tu l'as trouvé. Voilà, c'est entre mes deux doigts, là, voilà, le Roi Scorpion, 4, et c'est Julien Dupuis. Regardez, je remonte, parce que Julien Dupuis, c'est Batman. Voilà, vous voyez ? Parce que voilà, c'est pour ça qu'il était pas là pendant un an. Bref, donc il allait combattre le crime en regardant des bons films.
Ouais.
Donc parlons du Roi Scorpion. Non, alors, Roi Scorpion, c'est quoi ?
Le jugement 20 ans après. Alors déjà, il n'y a pas de prescription. En plus, c'était les notes. Je détestais cet exercice. J'ai jamais été bon là-dedans. Et je veux dire, tu m'aurais ressorti une vieille critique. Au moins, là, j'aurais pu te répondre là-dessus. Mais là, sur une note.
Non, Julien, j'ai qu'une seule question, moi.
C'était des trucs qui étaient faux au dernier moment.
Enfin, j'ai qu'une seule question. Est-ce que c'est rigolo ? Est-ce que c'est toujours rigolo ?
En fait, je trouve que... Mais je le trouvais déjà à l'époque, en fait. C'est pas nul. C'est pas bien. C'est schmoll. C'est un peu rien, en fait. Quoi. Le truc, c'est que moi, à l'époque, puisqu'il faut que je me défende sur un truc
de 20 ans...
manifestement, parce que t'as insisté beaucoup là-dessus. Je pense que déjà... on connaissait pas celui qui se faisait encore appeler The Rock, puisqu'il sortait, c'était son premier film en lead, si mes souvenirs sont corrects. Oui, Walking Tall, ça, c'était après, non,
c'était bien après, ouais.
Et donc, on connaissait pas le mec. Et puis, Schwarzy était plus... était devenu gouverneur, je crois, déjà.
Il allait le devenir, mais surtout, il marchait plus, en fait.
Ouais, et puis bon, voilà, il avait complètement disparu. Puis ses derniers trucs ne capitalisaient pas du tout là-dessus.
La même année, Schwarzy sortait Dommage Collatéral.
Ah ouais, voilà, alors, le truc qui a rien à voir, quoi. C'était, ouais, c'était l'époque où il commençait à être miscasté dans des trucs, en fait, où il se disait, bon, il faudrait peut-être pas trop que je joue sur ma carrure et mon physique Bigger Than Life et tout. Et ça marchait. Enfin, moi, je trouve que ça a jamais marché, ce point de sa carrière. Et donc voilà, il y a eu ça. Et puis je pense qu'il y avait un truc aussi, c'est que toujours pour ma défense, donc puisque je suis attaqué sur cette note qui, je le rappelle,
a
plus de 20 ans. Mais bon,
voilà, faut quand tu étais jeune, en fait, t'avais faim.
T'as insisté là-dessus, mais non. Mais en plus, c'est vrai que c'est pour moi, c'était une période qui était. Ce numéro là de Mad Movies, pour moi, c'est un très mauvais souvenir. C'était une période extrêmement dure pour moi. Donc ça biaise aussi les trucs. C'est pas agréable, quoi. J'étais pas à ma place, quoi. J'étais très seul. Mais bon, bref. Et le truc aussi, c'est que. Je pense qu'en dehors des qualités, petites qualités, si tant est qu'il y en ait des tangibles, en fait, du film, il y a un truc aussi qui s'est passé dans ma tête, c'est que moi, j'ai découvert Conan le Destructeur avant Conan le Barbare. Ah. J'avais 6 ans ou 7 ans, je sais plus. Enfin, j'étais très jeune, quoi. J'avais pas vu, moi, les Rosen, les trucs comme ça à l'époque, hein. C'était difficile à voir. Je pense que le truc le plus approchant que j'avais vu, ça devait être Jack le Tueur de Géant à cette époque-là, qui était passé à la dernière séance. Et j'avais beaucoup aimé, quoi, comme un gamin, parce que je voyais un mec qui avait des muscles partout. Je me rappelle, j'avais fait des trucs de photocopies pour faire des espèces d'affiches pour un club que j'avais monté, bref. Et il y avait
toujours le même club ou il y avait plusieurs clubs?
Ouais, le club Conan, ça s'appelait. Ouais. J'avais monté avec des copains, tu payais 7 francs à l'époque et t'avais plein de goodies, c'était trop bien. Mais bref, et je me rappelle, il y avait une photo de Schwarzy qui était avec son épée comme ça et son biceps montait tellement haut. Quand j'étais gamin, je le regarde, je me dis, putain, mais. Quand il se met dans cette pose, parce que moi j'adorais la pose, je la trouvais trop cool, je me dis, mais ça doit être emmerdant, ça va presque au niveau de ses yeux, quoi. Il a tellement de muscles, quoi. Bref. Et c'est vrai qu'en fait, quand le Roi Scorpion est arrivé, je pense que ça faisait partie du projet de Universal, qui était donc la major qui a produit le film. Je pense qu'il y avait ce truc de se dire, on va faire un truc comme ça pour les mômes, parce que c'est vraiment une destination des mômes aussi, le Roi Scorpion, je trouve, quand tu le revois aujourd'hui. Mmh. Mais un truc pour les enfants et qui comble, en fait, ce manque-là, en fait, ce truc du petit garçon qui se projette dans un personnage qui, en gros, c'est un maître de l'univers. Enfin, les jouets, je parle,
un musclor, quoi.
Voilà, et il y avait donc ce côté physique improbable, un tantinet, un univers un tout petit peu Heroic Fantasy hyper soft et puis un tout petit peu fantastique encore plus soft. Et puis cet étalage de bidoche exacerbé à l'écran, c'est ces trucs que finalement je voyais pas beaucoup, moi, au cinéma.
4 sur 6, quoi. Tu vois, voilà.
Non, puis j'avais j'avais vu le truc. Bon,
non, mais en fait, blague à part, effectivement.
Tu vas porter garant de toutes les notes que t'as mises dans maths.
Mais tu vois, c'est même pas la question. Là, en l'occurrence, ce qui était rigolo, c'est qu'en fait, l'excuse veut que, en fait, en vrai, on ouvre avec ce truc-là parce que, voilà, on le fait avec toi et que, voilà, bon, le film, moi, personnellement, j'avais mis 0 et je maintiens. Mais on va en parler. Mais le truc, c'est que c'est surtout, pour moi, ce qui était intéressant pour parler de ce film-là, et autant commencer par le premier, en vrai, comme tu l'as dit, c'est de parler de la carrière de The Rock, parce que mine de rien, dans la logique d'un film qui se rapprocherait de la logique stéroïde, qu'on chronique et qu'on défend ici, The Rock, c'est un énorme représentant. On n'a jamais vraiment fait de podcast dessus, on n'a jamais fait d'émission dessus, et pour une raison, à mon sens, très simple, c'est que je ne sais pas exactement par quel biais l'aborder, vu que c'est quelqu'un qui, effectivement, est un gros musculeux qui a, à mon sens, beaucoup de talent, hein, quand dans les bons projets, mais le problème, c'est qu'il y a très peu de bons projets, quoi. Et en l'occurrence, je sais pas ce que t'en penses par rapport à ça, mais moi j'ai toujours tendance à croire que les premiers succès, parce que ça a été un succès, le film, hein, mine de rien, quand c'est sorti en salle à l'époque, en 2002, donc.
C'est normal,
donc,
c'est rigolo.
Voilà. Donc monsieur assume, voilà. Donc pourquoi, c'est quoi, quel est le problème, tu vois. Quand il a sorti ce film-là, que ça a été un succès, quelque part, en fait, chez les mecs comme ça, je trouve que ça donne toujours un peu là de leur carrière, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, Stallone, il commence avec Rocky, c'est un succès. Tu vois, forcément, en fait, cet aspect dramatique...
Ça annonce Cobra, quoi.
Ça infuse l'aspect dramatique, en fait, que le personnage peut apporter... Enfin, que l'acteur peut apporter à ses rôles, quoi, tu vois. Pas tous, hein, évidemment pas Cobra, mais en gros, certains autres films, Rambo, tout ça, etc. Et pareil, Van Damme, par exemple, si tu veux, Bloodsport... bon bah c'est un premier succès, c'est un truc qui l'assoit en fait comme un artiste martial, c'est un truc sur lequel il va avoir aussi pas mal de mal à se défaire en fait dans le reste de sa carrière. Il est attendu pour ces choses-là, il est attendu pour le grand écart. Donc voilà, tous ces points en fait spécifiques, bah finalement c'est intéressant de revenir sur le Roi Scorpion à l'aune du reste de la carrière de The Rock en fait et de partir par là. Alors peut-être on va resituer vite fait pour ceux qui n'ont pas vu le Roi Scorpion. C'est un spin-off à la base, hein. C'est dérivé.
Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il était encore catcheur. Je crois qu'il était encore catcheur à l'époque, ouais. Peut-être plus, mais enfin bon, je connais pas bien le catch.
En tout cas, il voulait vraiment faire la
position, oui. Et donc en fait, il avait été embauché sur La Momie 2. C'était un peu le gros caméo entre guillemets de La Momie 2 pour jouer le Roi Scorpion justement, qui apparaissait dans l'ouverture du film, et je crois juste à la fin.
À la fin, il y avait.
Couleur numérique absolument immonde, là, que ILM avait dû boucler en quatrième vitesse, mais ceci n'est pas le sujet. Et en fait, pendant qu'il était en train de. Parce que moi, il y a un autre truc aussi sur le Roi Scorpion, mais du coup, ça va me permettre d'en parler. Mais pendant qu'il était en fait, au tournage au Maroc, je crois, de La Momie 2, lui, il avait une tourista de folie, apparemment. Le tournage de la scène d'ouverture, qui est quand même une scène d'action qui exige beaucoup, surtout d'un master pareil, quoi, sous le cagnard. Ça doit pas être évident de bouger cette masse-là. Et donc, voilà, ça sort par tous les trous, apparemment. Ça se passe pas bien du tout, quoi, sa maladie, quoi. Et alors qu'il est à son hôtel, j'allais dire hôpital, tu vois, lapsus révélateur.
Ne nous mets pas des images en tête.
Ah non, mais il va être question de paix dans ce podcast, je te préviens tout de suite. Mais donc.
Étonnant, ça faisait un an qu'on n'avait pas eu de paix, oui. Dans Stéroïde, et maintenant, voilà.
Bah voilà. Et pendant qu'il était à l'hôtel, en train de probablement de se vider, hein, faut imaginer le truc. Il a un appel de son agent, et son agent lui dit « Universal a vu les rushs, ils adorent, ils veulent te signer pour un spin-off ». Et The Rock était en plus dans un état, on imagine, entre deux proutes, hein, j'imagine, deux proutes de The Rock, t'imagines le machin, ça doit faire une caisse de résonance là-dessus, ça doit faire trembler tous les muscles. Et donc pendant le truc, il dit « Mais c'est quoi les rushs ?» Un peu en colère, après, il connaissait rien au scénario, c'est ça aussi qui était rigolo. Et donc le truc aussi de Roi Scorpion, et moi je pense que j'étais un peu abusé là-dessus, parce que il y a des restes là-dedans, et je pense qu'on viendra aussi en parler quand on parlera de la production, qui a été un peu compliquée du film. Mais j'ai revu aussi des bribes de Steven Sommers, et moi, même si j'avais été extrêmement déçu par La Momie 2, j'aimais beaucoup Steven Sommers en fait à cette époque-là. J'avais beaucoup aimé La Momie, j'avais surtout beaucoup aimé Un cri dans l'océan, j'aimais bien son livre de la jungle aussi. Et j'avais un espoir vraiment dans ce mec-là. C'est-à-dire, quand un gars que tu suis signe trois films d'affilée, bon, tu lui pardonnes La Momie 2, tu dis bon, trop de coups.
Mais pour parler de notes en fait que j'assume pas forcément aujourd'hui, effectivement, La Momie 2, moi j'avais été plutôt bon public.
Ouais, bah,
à l'époque où c'est sorti. Moi, je t'avoue qu'après l'avoir vu, je fais ah
non,
tu vois, chaud quoi.
C'est très compliqué, mais bon, voilà. Et le truc, c'est que Universal, pour eux, le pack, c'était Steven Sommers. Et Dwayne Johnson. Alors Steven Sommers, c'était le poulain de Universal, donc le Roi Scorpion, c'était quand même c'était 60 millions de dollars de mémoire, le budget,
ouais,
un truc comme ça.
Il me semblait que c'était 100.
Ah non, c'était beaucoup moins que ça, mais c'était 50 ou 60, j'ai retrouvé des notes sur un truc de différent, bref. Donc il y avait un pack comme ça où il capitalisait sur Steven Sommers, parce que lui il est coproducteur, je crois qu'il a co-signé le scénario.
C'est son histoire, quoi. Bah, voilà. Je pense que ça compte du personnage en fait.
Et en gros, non, pas uniquement, a priori il avait vraiment signé le truc. Et
en fait, quand t'es créateur à Hollywood sur la WGA, c'est-à-dire la Writers Guild, il suffit que t'aies créé des personnages qui se retrouvent dans le film pour que, de toute façon, et c'est le cas du Roi Scorpion, donc puisqu'il a été créé dans le Retour de la Momie, pour que ça suffise en fait pour que t'aies un crédit. Et le seul crédit en tout cas qu'il a, après peut-être qu'il a écrit, hein, une outline comme on dit, tu vois, un synopsis, mais en tout cas le crédit qu'il a, c'est story, vraiment.
Mais le truc, c'est qu'il y a des petites choses, alors c'est tout petit, hein, mais qui font partie en fait des trucs de Steven Sommers, moi, que j'aimais bien en fait, en tout cas qui me font rigoler, quoi.
La scène où il écrase les fourmis avec
oui, par exemple, là. Tu vois, c'est cette scène là alors le problème, c'est que comme c'est un film qui n'assume rien, qui n'ose rien, rien ne va dans la folie que Steven Sommers peut lui parfois assumer, et qui font que ces scènes sont sympas, quoi. Bon, mais t'as cette scène là t'as cette scène où il se bat avec Clark Duncan là Michael Clark Duncan aussi. Alors quand ils se battent déjà tous les deux, tu vois des espèces de deux énormes côtes de bœuf là, déjà... qui sont en train de se confronter. Moi, c'était étalage de bidoche si tu veux. C'était un truc de ouais,
ça
c'est ça.
Ça te met une petite larme à l'œil quoi.
Non, ça me met pas une larme. C'est des.
Non, mais on est entre nous, c'est stéroïde, c'est normal.
C'est des trucs, d'enfants vraiment quoi. C'est-à-dire que bah, moi j'ai été élevé à l'époque de. Alors moi pas tant avec Stallone mais surtout donc avec Schwarzy et puis des Barbarians et puis des bah oui bah allez, je suis désolé
pourquoi on n'a pas fait les Barbarians bordel
ah, putain, ça j'aimerais bien mais, des Barbarians et puis de comment ils s'appelaient les frères Paul merci et de tous ces trucs où les mecs ils prenaient des
anabolisants
ouais hein, des trucs affreux quoi pour avoir des muscles partout puis des maîtres de l'univers qui faisaient complètement partie aussi de ce truc là donc voir ces deux côtes de bœuf là qui se foutent sur la gueule. Bah, c'était
alors là en l'occurrence au ralenti au début, c'est-à-dire que t'as quand même un double ralenti, en fait c'était un champ contre champ ralenti. Et effectivement, t'as envie de dire, là, il y a des moments quand c'est comme... c'est faux. Faut être sobre, quand même.
Non, mais justement, moi, c'est mon problème, en fait, avec le roi Scorpion, c'est que...
Là, ils sont trop sobres, c'est sûr.
Voilà, mais, ouais. c'est en germe, tout ça, quoi. Mm. Mais même lui, en fait, il y a deux, trois trucs, moi, qui... En fait, le problème, c'est que ce film, et c'est ça, je pense, dans le truc de c'est rigolo, point, puisqu'il faut que je me justifie sur cette note.
Sur le point. En fait, c'est
mais,
sur le point.
Non, non, mais le point important, parce que... C'est-à-dire que c'est un film qui me fait sourire, et qui m'a refait sourire quand je l'ai revu, à deux, trois reprises. Ouais, une dizaine on va dire en gros mais qui me fait jamais rigoler en fait et c'est voilà c'est à dire que c'est la même chose quand lui il est au pieu Michael Clark Duncan et puis je sais pas il doit se lever parce qu'il y a quelqu'un qui l'appelle il est à côté de sa d'une meuf et puis quand il se lève tu vois qu'il y en a une autre derrière c'est la même chose donc dans leur combat tous les deux où Matthäus enfin The Rock je dis The Rock puisqu'il avait
oui,
c'était le nom qu'il avait à cette époque là et en fait il lui envoie plein de trucs à la gueule puis à un moment il chope un poulet. Il le regarde et puis il le lâche sur le côté. C'est enfantin. Je vais pas défendre ce
truc. Mais moi, j'aurais préféré qu'il le tape avec le poulet.
Oui, non, mais bien sûr, évidemment. Et je pense que Stephen Sommers, parce qu'il y a la drogue, l'aurait fait, en fait. Mmh. Mais là, et Chuck Russell a toujours été un peu comme ça. C'est-à-dire que moi, j'aime bien le début, en fait, de ce réal. J'aime bien les Freddy 3, j'aime bien The Blob. C'est des films sympas, mais pourquoi, en fait, ça fonctionnait? Freddy 3, c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'il y a Frank Darabont aussi dans le truc et tout. Mais c'est aussi parce que le mec, était supporté par des créateurs d'effets spéciaux qui, eux, pour le coup, pétaient un câble. Et c'est eux qui faisaient le spectacle, c'est eux qui faisaient les images dont tu allais te souvenir, quoi. Dans The Blob, il y en a plein des trucs super, quoi, mais c'est pas Chuck Russell, quoi. Et lui, par contre, il a cette faculté de comment dire, tout est nivelé, en fait. Moi, je me rappelle, dans The Mask, c'est vraiment un truc qui m'avait marqué, c'est-à-dire que t'as Jim Carrey, et t'as les effets spéciaux de cartoonesque à la Tex Avery de d'ILM, et t'as l'impression que, alors peut-être que le concept était mauvais, mais je pense pas en fait, je pense qu'un vrai réal aurait pu faire un truc complètement qui aurait explosé quoi. Sauf que là t'as l'impression que ça s'annule en fait, ça devient tout morne. C'est le Tex Avery le plus soft et le plus monocorde que je connaisse.
On va pas faire une, mais bon. On va pas faire une review de
non mais
de The Mask, mais ce qui est vrai dans The Mask, c'est que en gros le fait d'avoir cet acteur là que beaucoup de gens ont découvert avec ce film là en l'occurrence hein, aurait pu justement ouvrir sur le reste du numérique, en fait, et vraiment augmenter ça. Et c'est vrai que non, en fait, le seul truc qu'ils se sont pris plaisir à faire, en fait, c'est de reprendre des figures de Tex Avery, comme le loup avec la langue, etc., ouais, etc. Ouais. Ça va pas plus loin. En
fait. Bah ouais, voilà.
Exactement. Et voilà. Mais en tout cas,
il avait fait la même chose sur l'effaceur, juste pour finir sur Chuck Russell. Vous en aviez parlé, je crois.
Avec Mathieu, on avait
avec
fait
Mathieu,
un
podcast.
Ouais.
Mais c'est pareil, en fait, l'effaceur. Je me rappelle, c'était un truc. Chuck Russell, je crois, enfin sur ces films-là, en tout cas, moi, je les ai jamais détestés. Mais j'ai jamais aimé ces films-là, quoi. C'est pas des films que j'achetais derrière en Blu-ray ou
sauf
en DVD.
Sauf le roi Scorpion.
Et les, ouais, bon, non, pas plus que ça, en fait.
J'avais pas filé le DVD à l'époque, genre j'avais dû c'est le recevoir possible. Peut-être pour Mad et je l'avais filé pour la rubrique.
C'est possible, c'est possible, quoi. Donc voilà, c'est.
Après, le vrai truc, c'est qu'en vrai, quand tu regardes un film comme ça, alors oui, c'est Chuck Russell, donc forcément. Ça lui ressemble un petit peu.
Ouais, ouais.
Mais la réalité de la situation, c'est surtout que tu le regardes à la base pour savoir ce qu'un mec comme The Rock peut donner dans le cinéma d'action aujourd'hui. Tu te poses la question de ce héros d'action. Mmh. Et là, la problématique, c'est que, bon, sur ce film-là, déjà, il est beaucoup moins. Enfin, moi, il y a ce mème que j'adore sur Internet qui date un peu maintenant, hein, mais il y avait ce mème qui montrait The Rock en 2003. The Rock en 2013, et en fait, il triplé de volume, donc imagine le Rock, tu vois, tel que tu le vois là, dans comment ça s'appelle, dans Le Roi Scorpion, qui est relativement fin, par rapport à la musculature qu'il a aujourd'hui. Ah, par rapport à la musculature qu'il a aujourd'hui, c'est fou.
C'est, tu vois, relatif. Mais...
Bah, c'est relatif, mais c'est quand tu fais la comparaison. Voilà. Et en fait, du coup, le mec, dans son mème, avait dit en 2023, ça date donc un petit peu, parce que c'était voilà, dans 10 ans, quoi. Et là, il mettait un vrai rocher, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, il s'était transformé en rocher. Et il y a ce truc où il n'avait pas encore cette transformation-là, je trouve, sur le personnage, sur Dwayne Johnson, tu vois, sur lui, sur son physique, quoi. Moi, je trouve, enfin, tu vois, pour moi, il faisait vraiment, en tout cas, à cette époque-là, il faisait vraiment mec qui se parfume. À la noix de coco là, et au vahiné, quoi, tu vois.
Ouais, et je m'en fous de ça. C'est pas un vrai homme, tu veux dire. C'est ça que
non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, si tu veux, tu sens qu'en fait, justement, au contraire, il est beaucoup trop apprêté, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Là, maintenant, ouais. Maintenant, il est tellement
mais
gros.
Mais tout le film est comme ça.
Il est
ça,
tellement gros que, je veux dire, probablement, il a les mêmes il se met les mêmes choses, les mêmes lotions, c'est pas la question. Le truc, c'est qu'il est tellement gros que tu vois que ça maintenant, tu vois. Alors que là, si tu veux, t'avais un espèce de côté, il était trop. Pub pour parfum exotique, en fait, tu vois ce que je veux dire, Tahiti douche, quoi, tu vois, c'est j'ai le même problème avec le mec qui joue Aquaman, tu vois, c'est-à-dire que en gros quand je le voyais dans son Conan là qu'il a fait il y a une dizaine d'années, parce qu'il faut pas oublier qu'il a fait Conan il y a une dizaine d'années, donc bah, voilà, c'était le même problème, c'est que t'as l'impression de regarder un mec qui sort d'une pub,
j'sais
un
pas,
barbare de pub pour parfum, quoi, tu vois.
Je suis pas tout à fait, bah, déjà moi enfin en tout cas je me rappelle qu'à l'époque en fait, encore une fois, cette typologie de physique-là, tu la voyais plus à l'écran. En fait, il y en avait plus beaucoup, en fait, des mecs comme ça. Hein. Et donc, ils sortaient déjà du lot. Enfin, j'avais pas imaginé que le mec
était déjà musclé, oui.
Et oui, déjà, il avait un côté un peu cartoonesque, quoi. Après, je sais pas. Moi, je sais qu'il y a, sur le côté, le potentiel, en fait, du bonhomme. Tu sens qu'il a pas le métier qu'il a acquis derrière, ça c'est une évidence.
Ça, c'est l'évidence, ouais.
Mais je trouve qu'il avait quand même aussi ce capital sympathique qu'il a gardé derrière. Il a un truc en fait quand même, Dwayne Johnson sur le. Et je pense, alors je l'ai interviewé, je sais pas si tu le savais,
ouais,
mais c'est un mec, je trouve. Tu vois en fait, enfin je sais pas, je suis pas voyant quoi que ce soit, mais tu sens les mecs si c'est des mecs sympathiques ou pas, quoi. Et lui, vraiment, t'as envie que ce soit ton pote, quoi. Il est vraiment agréable, quoi. Vraiment, il est plaisant et tout, quoi. Moi, je l'avais complimenté sur No Pain No Gain. Il était touché par ça, vraiment, quoi. Puis il est rigolo, quoi, parce qu'il a des cuisses qui font trois fois mes biceps, quoi, au bas mon, quoi. Mais ouais, donc voilà. Et puis et puis aussi, il y a quand même un truc que Schwarzy, par exemple, avait pas au début de sa carrière, qui est une certaine, je dis bien certaine, agilité dans les combats. C'est pas ouf, quoi. Mais il est quand même capable de.
Pour le coup, c'est pas ouf. Hein.
Non, mais il est quand même capable de faire deux trois trucs. Il y a un moment, par exemple, dans le duel final qui est tout pourri par ailleurs, mais dans le duel final où il se relève comme ça en s'appuyant sur le dos et tout. Bon, un mec qui a cette masse-là, Schwarzy n'aurait jamais fait un truc
après,
comme ça.
Après,
ça
c'est son entraînement au catch, quoi. Tu vois.
Je pense que c'est son entraînement au catch.
Un fils de catcheur aussi. Hein,
je pense que c'est Al Leong aussi qui était. Moi, je me suis dit aussi que Laura Scorpion, c'était peut-être l'occasion d'en parler un petit peu, parce que Al Leong est le chorégraphe des combats en fait sur le film, et c'est a priori un truc dont il est assez fier, lui,
ouais, alors... normalement les gens qui nous suivent devraient savoir qui est Al Leong,
qui est Al Leong,
voilà,
ouais.
Mais on va quand même le préciser, donc l'un des terroristes,
le
par
second
exemple.
Couteau des années 80,
voilà, mais ouais. Je vais prendre un exemple, un rôle spécifique, le terroriste qui vole une barre de chocolat dans Die Hard, dans Piège de cristal, c'est lui, quoi.
C'est lui.
Le chinois qui a une moustache très longue, les cheveux longs et tout, et qui se fait tuer par Bruce Willis sur le toit à la fin dans une très belle gerbe de sang.
Il joue dans L'Arme fatale,
L'Arme fatale, c'est le personnage qui torture Mel Gibson, ouais, à la Gégène.
Et il joue dans Jack Burton aussi. Enfin voilà, il a un super combat aussi
contre Brandon Lee dans Rapid Fire à la fin. Voilà. C'est
un mec chouette. Ouais. Enfin c'est un mec, il est encore vivant, mais il a un peu disparu maintenant des écrans. Il est moins présent.
Non plus. Hein.
Et c'était un mec, c'était un technicien en fait. Il s'occupait d'installer les lumières en fait sur les plateaux et tout. Et c'est un peu par accident qu'il est devenu d'abord cascadeur, ensuite doublure et surtout chorégraphe de combat, quoi. Et il y a un autre petit truc là-dessus dans le Roi Scorpion, dans les pseudo-promesses du film, dans la création en fait de cet univers, il y a aussi cette tentative de mélanger des continents, qui était un truc séparé, quoi. Tu parlais du Conan tout à l'heure de merde, là, c'est des questions qui se posent même pas, en fait, dans ce film.
Oui.
Là, au moins, il y a ce truc-là, en fait, où ils se disent, on va mixer un peu de milieu arabe avec un peu d'asiate et tout. difficile de parler de ce film. Faut qu'on parle de la post-prod, hein, par contre.
Ouais, ce sera peut-être le truc, en fait, pour parler peut-être du film au sens de ce que le film représente, et surtout, en fait, encore une fois, déjà, moi, je trouve, à l'aune de la carrière de Dwayne Johnson, aussi par rapport aux attentes d'Universal, ce qui est assez étrange, en fait, je trouve, c'est que finalement, en dehors du personnage du roi Scorpion, qu'on voit apparaître, comme tu l'as dit, au début et à la fin du Retour de la Momie, en fait, fondamentalement, c'est pratiquement pas collé à la Momie, ni en termes de style, ni en termes de spectacle, ni en termes de... Voilà, par exemple, en fait, si tu veux, ils avaient une carte à jouer, et à l'époque, t'avais, le numérique était quand même assez suffisamment développé pour ça, ils avaient une carte à jouer dans une espèce de scène. Alors, moi, j'aime beaucoup, parce que quand tu revois cette scène, tu te dis, ouais, je sais pas qui a réfléchi à ça, mais voilà, c'est qu'il y a ce truc où, en fait, où ils utilisent une tempête de sable, et en fait, ils la contrôlent, bon, pour se cacher dedans et faire le mec furtif. Sauf que bon, c'est The Rock, tu vois. Donc, en fait, le mec furtif dans le sable, et ils sont tous biaisés, quoi. Ils sont tous à voir, quoi. Ils sont tous niqués un par un, quoi. Et le truc, c'est que, en fait, t'as pas du tout de numérique avec ça, quoi. C'est-à-dire que ils jouent pas avec le personnage, avec le truc pour,
Non, non, vas-y.
Pour renvoyer un petit peu, en fait, aux effets que tu pouvais voir dans la momie. Et en tout cas, préfigurer, parce que c'est une préquelle, hein. C'est censé être une préquelle, donc.
Ouais, c'est 10 ans avant, un truc comme ça.
Non.
Ce que disait pendant la promo, je crois, me souvenir.
Attends, le roi Scorpion, c'est 10 ans avant le retour de la momie?
Oui, avant la séquence de pré-générique du retour de la momie.
Ah oui,
la
séquence de pré-générique, ouais. Je pensais que tu parlais de quand il apparaît à la fin, ouais. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que, en gros, bah voilà, même s'il avait pas encore tous ses pouvoirs surnaturels, il arrive quand même à faire certains trucs, tu vois. Mais c'est très bizarre, c'est un peu ambivalent, quoi. Non,
tout est en eau tiède.
Voilà, et en même temps, je trouve que ça ressemble à la carrière de The Rock, parce que c'est-à-dire que fondamentalement, à part Pain and Gain dont t'as parlé, à part peut-être, tu vois,
Rampage, c'est vachement cool.
Ouais, mais Rampage, ouais, mais ça reste un film relativement classique dans la carrière de The Rock. C'est juste que c'est un peu plus fun parce qu'il y a des gros singes, c'est normal, tu vois. D'un seul coup, tu t'augmentes la qualité du film quand tu mets ça, quoi. Mais, dit-il très sérieusement. Mais le truc, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'à part 2-3 prises de risque potentielles dans sa carrière, The Rock, c'est-à-dire jouer dans Southland Tales, même si à l'époque ça pouvait paraître être une prise de risque relativement, peu importante, parce que c'était le Wonder Kid, comment il s'appelait,
Richard Kelly
qui a fait donc Donnie Darko. À part ces petits trucs là, enfin c'est quand même un mec qui c'est tout le temps le même film. Là, j'en ai parlé dans l'émission de Sale Temps pour un film quand j'ai parlé de Black Adam, t'as littéralement l'impression que le passif du personnage, ça sort du roi Scorpion presque, tu vois. Donc c'est ça qui est un peu étonnant, parce que du coup tu te dirais, ouais, il s'est assis, c'est quand même la plus grosse star de cinéma actuelle, hein, The Rock, quoi. Il faut aussi le préciser, quoi. C'est un mec qui est extrêmement suivi sur les réseaux sociaux, c'est un mec qui est tout le temps présent, c'est un mec qui est effectivement, comme tu l'as dit, très généreux en fait avec son public, quoi. Très présent, très voilà. Et du coup tu te dis, bah normalement il devrait pouvoir tenter des trucs, et il le fait jamais. Et je trouve que, en fait, quelque part, c'était déjà presque en germe, en fait, le film lui sied bien, on va dire, à ce niveau-là. C'est ça qui est étonnant à la revoyure, quoi. Moi, je trouve ça, sincèrement, je trouve ça vraiment nul comme film, mais en tout cas, c'est intéressant à regarder sous l'angle de l'analyse de sa carrière, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il y a ce point-là. Après, effectivement, le film en soi.
Alors, il y a un autre truc dont on n'a pas parlé, je pense, faut qu'on en parle aussi pour remettre tout en perspective, c'est que le film était annoncé autour de 50 millions de dollars. Moi, de ce que je vois et des échos que j'ai eus, en fait, sur les coulisses du film, je pense que c'était moins. Déjà parce que c'est un film qui a été tourné entièrement en Californie. Et ça, c'était, à l'époque, ça se faisait pas, en fait. Ils allaient déjà tourner en Afrique du Nord et tout pour ce genre de, enfin, au Maroc, quoi, en général et tout. Et ça se sent un peu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, la Universal n'était pas contente, en fait, du résultat final. Et du coup, ils ont rajouté de l'argent en post-prod pour, j'ai pas réussi à retrouver mes sources là-dessus, mais je suis sûr et certain de l'avoir entendu à l'époque. Mais, Stephen Sommers a retourné une séquence d'ouverture, en fait. Et je trouve qu'à la revoyure, ça se sent. C'est-à-dire que c'est pas filmé comme du Chuck Russell. Par exemple, il y a des entrées de champ extrêmes des personnages. Tu vois, t'as un plan large, hop, une entrée de champ extrême. T'as des gros plans un peu déformés, tu vois, avec des focales hyper courtes sur des faciès patibulaires. T'as une façon d'appréhender la topographie, la scénographie, en fait, des scènes d'action que tu retrouves pas, en fait, dans la suite du film. Donc t'as des trucs hyper rigides comme cette scène ridicule où il est sur l'espèce de plateau tournant et filmé en plongée là où c'est complètement nul quoi. Et ils avaient aussi embauché Dick Ferrand qui est un Suisse qui bosse aux États-Unis depuis très longtemps, depuis des années, pour doper visuellement le film. Donc ils devaient en fait rajouter plein de peintures numériques pour que visuellement ce soit un peu plus généreux. Ça sent aussi, je trouve, de temps en temps, c'est-à-dire que tu vois que à un moment il y a une chevauchée comme ça, il y a des espèces de sculptures sur les côtés et tout pour essayer de donner un petit peu plus d'ampleur à un film qui en manquait. Je pense que ça a été voilà, c'était un petit pari en fait de la part de Universal fait par un artisan qui a un certain savoir-faire quand même malgré tout, mais qui n'est absolument pas habité par son sujet ou quoi que ce soit, quoi.
Oui, en tout cas, je pense que le film n'a pas, même s'il a marché, c'est même si ça a été une bonne affaire et qu'il a clairement lancé la carrière de The Rock, puisqu'en fait, derrière, Dwayne Johnson, pendant quelques années, a essayé justement de s'inscrire dans le sillage d'Arnold. Il y a, dans Bienvenue dans la jungle, il y a ce moment en fait où il y a une espèce de passation de pouvoir, puisqu'en fait il y a un caméo d'Arnold qui vient le voir et qui lui dit amuse-toi bien, tu vois, c'est vraiment le début, tout début du film. Donc c'était un peu une espèce de façon de l'adouber, de dire bah voilà, le mec, tu vois, qui peut prendre la relève, c'est lui. À l'époque, il y avait quand même Jason Statham aussi qui faisait quelques films. Il avait déjà fait le Transporteur, ce genre de choses, quoi. Donc du coup, en fait, bah là, le mec adoubé, c'était The Rock, quoi. C'est un type en fait qui a vivoté dans le cinéma d'action, a beaucoup cherché. C'est-à-dire, moi, j'ai vu une interview récemment assez, c'était assez marrant parce que moi, j'aurais pensé qu'il aurait assumé ou fait une blague là-dessus. Et pas du tout, en fait, c'est bon, il a fait les tours des promos pour Black Adam et tout, quoi. Et à un moment donné, t'as un mec qui lui pose la question sur The Tooth Fairy. C'était une comédie, là, où il joue la fée, là. Et en fait, en gros, tu vois The Rock qui, d'un seul coup, s'attendait pas à ce qu'on lui pose cette question et qui bloque. Et au lieu de faire une blague en disant, ouais, j'ai évolué, enfin, au lieu même de défoncer le film, de dire, bah, non, je fais plus ça, tu vois, etc., etc. En fait, tu sens qu'il a été vexé que le mec résume sa carrière à The Tooth Fairy avant Black Adam, quoi. Et c'est assez marrant parce que du coup, tu te dis, bon, ça le rend un petit peu touchant, mais c'est vrai que ça m'a renvoyé à l'idée que, en fait, bah, avant qu'il fasse son méga second rôle dans Fast Five et qu'on lui accrédite, en fait, le fait qu'il a relancé vraiment la franchise, quoi, bah, en fait, The Rock, c'était pas la méga star, quoi. Il cherchait vraiment à s'implanter, à faire ce que Arnold et Stallone ont fait dans leur coin, c'est-à-dire faire quelques comédies, faire des films pour enfants. Moi, celui-là, tu dis que c'est un film qui est fait pour les enfants, mais j'ai plus l'impression que c'est un film qui est vraiment fait à destination des beaufs, en fait, du Texas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a un Rock FM et tout ça à fond la caisse, tu vois, dans le film. Bah, à la fin, dans le générique de fin, t'as des gros morceaux de rock pourri, tu vois. T'as des vieux, enfin, t'as un joli score, je trouve, de John Debney, qui se veut à l'ancienne, hein. Mais qui est caviardé de riffs de guitare ici et là pour
c'est pas toujours heureux. Il y a des moments c'est pas mal, moi je trouve.
Mais tu sens que c'est parce que c'est pour dire ah, attention, c'est rock'n'roll, c'est pas un film historique, quoi, tu vois. Si les gens se posaient la question, quoi, tu vois. Et du coup, en fait, en gros, c'est tout ce truc où je pense qu'il y a vraiment, en fait, c'est pour le public de catch. Alors oui, le public de catch, il y a des gamins, ça c'est vrai, tu vois. Mais il y a aussi, en fait, en gros, des adultes, enfin des adolescents, on va dire, si tu veux, c'est-à-dire des gens de 30 balais, 35 ans, 40 ans qui grandissent pas et qui sont des
toujours ça.
Voilà, et je pense que c'était vraiment ce truc-là. Et là-dessus, bah, en fait, ça, les suites que ça a donné, c'est-à-dire que ça a été des directs ou vidéos, quoi. Il y a notamment alors il y en a eu 4 ou 5, mais le truc, c'est que le deuxième, on a regardé là tout à l'heure, parce que c'est vrai que moi je les ai pas vus, toi non plus.
Non, moi non plus.
C'était avec, on avait dit Dave Bautista, mais c'était pas lui, c'est Randy Couture, qui reprend le rôle du roi Scorpion, quoi, et c'est réalisé par, toujours dans la langue d'Arnaud Bordas, Russell Mulcahy, quoi. Et voilà, donc en fait, les attentes finalement sont retombées parce qu'il n'y a pas de. C'est-à-dire que je pense que la qualité du film est telle qu'il n'y a pas vraiment de quoi susciter une vraie suite. Et même lui, il est passé à autre chose, Zorro, parce que tu vois, il est vraiment. Ça a été un bon tremplin de carrière, on va dire, si tu veux, mais du coup, tu sens qu'ils ont pas de.
Mais il était déjà payé une fortune, hein, à l'époque, hein, pour. Il avait touché juste
5, je crois. 5
ouais,
millions,
c'était énorme.
Pour un catcheur qui, pour son premier rôle, c'est beaucoup.
Ouais, c'est énorme. Et je pense aussi que ça impose d'office une certaine catégorie de production et que Universal a pas voulu en fait capitaliser là-dessus. Puis je pense aussi que le film est sorti en plein boom aussi du DVD et qu'à mon avis ça a dû cartonner aussi
ça
en DVD.
Ça c'est vrai. D'ailleurs voilà. Assez étonnamment en fait c'est un film qui existe en 4K aujourd'hui. Ah, c'est-à-dire ils l'ont sorti quoi. Et l'autre truc c'est qu'il est sorti très très vite après le retour de la momie. C'est-à-dire il est sorti moins d'un an après si tu te rappelles quoi. C'est-à-dire que la momie je crois que c'était en mai 2001 ou un truc comme ça. Et celui-là ça devait être mars-avril de 2002 quoi quelque chose comme ça.
Bah, j'avais vu les décors en décembre de 2001, je crois. Ah ouais. Universal, ouais. Ah oui, parce qu'ils avaient reconstruit, il y a une partie du décor qui avait été reconstruite, je crois, avec des portions du décor de Spartacus. Donc voilà, tu passes de Spartacus
mais au Scorpion. Mais en fait, je pense que c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, pour moi, à la fin, on va dire, pour boucler un peu sur la qualité du film, mon problème, c'est quand j'avais vu ce truc-là, je voyais pas trop la distinction avec Cool le Conquérant, quoi. Je veux dire.
Tu l'as revu, Cool le Conquérant ?
Alors non, mais en fait...
Pour le coup, c'est vraiment invitable, vraiment.
J'ai personne qui a mis un 4 quelque part avant que je l'aille le chercher pour qu'on fasse le podcast. Mais le truc, si tu veux, Mais c'est Cool le Conquérant. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que... Bon, il y a une grosse distinction, évidemment. C'est que d'un côté, t'as The Rock, qui est quand même quelqu'un qui a du charisme et du talent, tu vois. Et de l'autre côté, t'as Kevin Sorbo.
Ouais, bah voilà,
même, bon, hein, tu vois, je veux dire, le David Hasselhoff de Lubric Fantasy à la télé, on va dire, tu vois. Mais le truc, si tu veux, c'est que... Mais ça restait, moi, je trouvais extrêmement cheap. Beaucoup d'intérieur, beaucoup de choses comme ça. Tu vois, peu de production design, je trouve extrêmement on en a un petit peu parlé quoi, mais moi je trouve que ça invite pas vraiment au voyage, je trouve le film.
Ça invite à pas grand chose quoi.
Non, bah voilà, c'est ça, ça invite aux tartes dans la gueule entre deux gros.
Oui, voilà, et éventuellement 2-3 gags, et puis il y a Kelly Hu qui est très belle.
Voilà,
j'avais promis qu'il y avait un autre P. On peut conclure sur un peu du coup, parce qu'il est un peu morne ce podcast.
Non, parce que tu voulais parler de la post-prod en fait, si tu veux. C'était vraiment sur cet aspect uniquement sur le pitch.
C'est ça,
en fait,
c'est pas rien.
Non, bien sûr.
Tes Summers qui reviennent là-dessus. Non, bien sûr. Les fixes. Non, oui, c'est un truc. The Rock a tourné sa première scène d'amour, parce que c'est pas vraiment une scène de sexe. Hein. C'est très très sage. Le film est pas gore et le film est pas cul pour un sou, quoi. Mais et donc pour sa première scène un petit peu avec Eliou, il avait une machine à paix. C'est lui qui le raconte, hein. Et donc au moment
pour détendre l'atmosphère,
au moment opportun, il actionnait sa machine à paix, quoi.
Voilà. C'est au cas où elle se prenait trop au sérieux, je comprends pas le truc.
Non, pour détendre le truc, parce que c'est toujours, j'imagine, j'en ai jamais tourné, toi non plus, quoi. Ça nous arrivera probablement jamais, mais ça va être très bizarre, en fait, de tourner une scène où t'es t'es quasiment à poil avec un partenaire comme ça et tout, avec toute l'équipe qui te regarde comme ça, voilà. Donc lui, il avait amené une machine à paix.
Donc tu veux dire qu'en fait, Dwayne Johnson...
C'est l'anecdote qui sert à rien, mais j'essaie de relever de pimenter.
Non, tu veux dire que Dwayne Johnson, en fait, c'est Leslie Nielsen, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que Leslie Nielsen qui venait sur les plateaux de télé, là, et qui, en fait, à chaque fois qu'il faisait une interview, il avait sa machine à paix dans la poche et tout.
Ouais, peut-être, écoute, je ne sais pas.
Ok, et bah écoute, merci Julien, parce qu'on aura appris que Dwayne Johnson est un gros beauf. Voilà, qui fait des grosses blagues de paix, tu vois, sur le plateau, quoi. Merci.
Merci.
Merci d'être revenu pour ce grand film.
Écoute, voilà,
je savais comment te t'attirer vers nous pour revenir, reviens.
Non, j'étais forcé.
Des stories, c'est pas vrai. tu l'as revu, tu m'as dit, c'est rigolo, point. Voilà, donc tu vois, faire ce qu'on veut, il faut assumer, tu vois. Merci Alain, merci à Techno,
parce que
je le retourne, parce que sinon je le sens attristé, Julien, il croit qu'on le résume qu'à ça, mais c'est pas vrai, tu vois. Merci Alain, merci à la technique, merci à vous tous qui nous suivez, et puis Julien, promis, on se retrouve la prochaine fois avec un film que t'aimes.
C'est vrai.
Voilà, cool. À la prochaine.